Halloween.
Par contre, je veux bien reprendre ma voix normale
si ça ne t'embête pas. Ah, elle est.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Combien? Allez, moi.
Qu'est-ce que c'est, ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer?
Ce qu'il dit?
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui nous faisons un épisode un petit peu spécial.
Yes.
Il sort quelques jours après Halloween et nous avons donc décidé de traiter de sujets quelque peu effrayants. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe à commencer par Juan.
Bien bonjour.
Hicham. Et Camille.
Bonjour.
Donc Hicham a été remplacé par un buzzer, vraisemblablement.
Ok Hicham.
Très bien, c'est ça. Ok Hicham, tu peux nous faire un sujet sur les animaux. Bon, voilà, j'espère que vous allez bien. Nous, en tout cas, on va assez bien. On est en, il me semble, parce que on est un petit peu en publication décalée, mais qu'on est quand on est en post post week-end Paris Podcast Festival, qui était très sympathique.
Bien post week-end, ouais.
Oui. Mais oui, bah, forcément.
Rappelle-toi qu'on en avait parlé au dernier épisode, qu'on était content de peut-être les avoir vus.
Voilà. Mais on a vu plein de gens sympathiques. On a vu des auditeurs, des auditrices, des producteurs, des productrices. C'était vraiment très très chouette. La remise de prix où Anouk et Victoire, deux de nos précédentes invitées, ont gagné des prix. On est extrêmement heureux pour elles. Elles ont fait un super travail et plein d'autres personnes qui ont gagné des prix magnifiques. Donc voilà, c'était un très très bon week-end. Et puis bah pour notre part là, on va faire un petit on a essayé d'éviter les sujets un petit peu éculés, mais on va quand même parler un petit peu d'Halloween, faire des trucs un peu qui font
parce qu'on aime bien
qui font un petit peu peur. Voilà,
on va tester.
Voilà
de quoi on va parler d'ailleurs aujourd'hui.
Bah écoute, bah je ne sais pas, est-ce qu'on commence pas par Camille pour changer?
Bah par hasard, tiens. Allez, faisons ça. Allez, on se lâche. Moi j'aimerais vous parler de Gilles de Rais, qui est un compagnon de Jeanne d'Arc, mais également un des premiers serial killers de l'histoire de France.
Et le frère d'Odile, Odile de Rais.
Odile de Rais, absolument.
Tout à fait, ouais,
excellent. J'adore l'humour.
Voilà. Après, on va continuer avec Juan.
Oui, absolument. Moi, je vais vous parler de Ed Gein. Je vais vous raconter l'histoire de cette personne et comment il a inspiré...
Le boogie.
Le boogie, exactement, le boogie-woogie.
Cool. Après, ce sera Ichouchou.
Eh ben moi, je vais...
It's alive.
Suite à un auditeur qui voulait que je fasse un sujet sur les animaux, et ça tombe sur Halloween, donc je vais faire sur les animaux d'Halloween.
Très bien.
Voilà.
Et, bah, et toi, patron?
Ça me gêne toujours qu'on m'appelle patron. Mais...
Bah,
moi, je vais vous parler
chef, t'es chef, hein.
Je vais vous parler des clowns. Parce que les clowns, c'est des trucs qui font potentiellement un petit peu peur. Donc, je vais pas forcément vous parler que de la partie qui fait peur, je vais plutôt vous parler de l'autre partie d'ailleurs. Mais voilà, les clowns, d'où ça vient, pourquoi, comment.
Ok.
C'est bien pour Halloween que tu nous parles de la partie qui fait pas peur.
Ouais,
mais
c'est bien pensé.
Toujours en habitude, parle d'un sujet, partir du tout début et savoir pourquoi, comment.
On apprécie. Eh ben, allons-y alors.
Allez.
Gilles de Rais, baron de Bretagne, maréchal de France, ici présent, accusé d'avoir horriblement et inhumainement tué environ 140 enfants.
Beau palmarès.
Oui, oui, ça fait beaucoup. Au moment où ils ont dit 140, j'ai vu les yeux d'Ilias sortir des orbites et revenir dedans.
Ouais, c'est pas négligeable, quoi.
Ah bah non, c'est pas négligeable.
Mais tous d'un coup.
Bah attends, on y arrive.
Parce que sinon le sujet est très court.
Oui, voilà, c'est la fin du sujet. Donc non, en fait, je voulais vous parler de Gilles de Rais, parce que Gilles de Rais, c'est un personnage qu'on connaît un petit peu aujourd'hui, parce que quand on entend parler, on sait que c'est quelqu'un effectivement qui a été condamné, bon ça on reviendra là-dessus, qui a été condamné et brûlé. envoyé au bûcher.
Pour être honnête, je t'avoue que je n'avais, enfin, j'ai
t'avais jamais entendu parler.
Moi non plus.
Mais c'est pas bien grave. Hein. C'est pas non plus le personnage historique préféré des Français. Hein. Voilà.
Si c'est un alter ego dont on parlera, t'en as déjà entendu parler. Mais...
Oui, absolument. Ah. Et donc, Gilles de Rais, en fait, aujourd'hui, on le connaît un petit peu à cause de ses méfaits et également parce qu'il a inspiré tout à fait, comme le mentionnait Juan, Barbe Bleue.
Ah,
Charles
oui.
Perrault, voilà.
Ouais, on en avait parlé, avec donc, l'opéra Barbe Bleue.
Tout à fait. Et donc, il inspire Barbe Bleue. Alors, vous allez voir que c'est pas tout à fait le même type de délit, mais ça reste un mec pas archi cool qui, en tout cas, a pété les plombs à un moment de sa vie. Oui, voilà. Donc, Gilles de Rais, en fait, il est né vers 1404. On sait pas trop.
Après le Moyen-Âge. Pile après.
Non, dans le Moyen-Âge. À la fin du Moyen-Âge.
Je crois
1492, la fin.
Ah, mais je crois que c'était 400-1400. Ah,
non, c'est 5e, c'est 5e, 15e.
Ah merde, j'avais décalé d'un.
Bah, c'est pas bien grave, t'en fais pas. Enfin, mais... Tu sais, qu'est-ce que s'entend à l'échelle de l'humanité. Et donc, il naît vers 1400, donc il est pas n'importe qui, hein, ce petit Gilles de Rais quand il naît, étant donné que ses parents sont à la tête d'un vaste territoire qui est en gros tout le sud du Pays de la Loire. Donc il est plein aux as et malheureusement il est orphelin très très tôt, ça arrive au Moyen-Âge. Donc il naît dans une période où pour la France c'est un petit peu compliqué, il naît vers la fin de la guerre de Cent Ans, donc qui est pas une période jouasse, hein, vous en avais parlé un petit peu en vous parlant de Jeanne d'Arc.
Bien mais pas ouf.
Donc il hérite de ses parents assez jeunes et il se retrouve en fait rapidement comme étant le plus grand seigneur du royaume de France, tout simplement. Le plus fortuné, c'est-à-dire que on a énormément de sources aujourd'hui qui nous parlent de Gilles de Rais, mais avant qu'il ait été envoyé en justice pour ses problèmes, c'est-à-dire c'est un personnage qui aurait été un personnage historique et célèbre.
Ok, donc il aurait pu être un dirigeant majeur.
Mais il l'a été.
Ok.
Il l'a été.
Ne la ramène pas parce que je t'ai vu rigoler quand t'as dit fortuné.
Oui, ça ne fait pas sa fortune sarcastique.
Oh mon Dieu. Donc alors, le principal rival politique et économique de Gilles de Rais, c'est le duc de Bretagne. Voilà, c'est le duc de Bretagne, bon bah voilà, c'est l'autre côté de la Loire. Comment ?
Non.
Oui, non, on va éviter. Et donc, notre duc de Bretagne, il s'allie avec l'ennemi anglois, ce petit bâtard. Voilà. Et il se range du côté de Henri V d'Angleterre. Et Gilles de Rais, alors lui, il est assez fidèle entre guillemets en goût, et étant donné qu'il ne peut pas blairer le duc de Bretagne et que le duc de Bretagne se rallie au roi d'Angleterre, et bien lui il se dit bah moi je vais me rallier au roi de France. Et il va mettre en fait son immense fortune au service du roi de France qui, je vous le rappelle, à cette époque là est toujours pas sacré roi et est en exil à Chinon. Et donc Gilles de Rais, il va lever une armée entière, et rien que ça, hein, ça nous montre à quel point il était riche, parce que lever une armée à l'époque, c'est
il avait pas des petits bras, quoi.
Payer les hommes, payer les chevaux, payer les armes,
la bouffe,
voilà, la bouffe, absolument tout. Il entretient une armée et il part à Chinon avec son armée se mettre au service du dauphin Charles. Et à Chinon, qui est-ce qu'il rencontre ?
Il rigole parce que t'as dit dauphin. Ouais, oui. Non, mais ça va pas du tout aujourd'hui.
Putain, ça va être archi long cet épisode. Bref.
Bien.
Et donc, qui est-ce qu'il rencontre à Chinon ? Eh bien, il rencontre Jeanne d'Arc. Exactement.
La petite Jeanne.
Il rencontre Jeanne d'Arc. Directement, il y a de l'amour entre eux. Direct. Alors, pas au sens où vous pourriez l'entendre.
Non,
parce que lui préfère les hommes, hein, d'une part, et d'autre part, il est déjà marié de toute façon. Enfin, bon, tu me diras, l'un n'empêche pas l'autre à cette époque, mais voilà. Et il faut se marier pour un héritage, même quand on n'aime pas trop les femmes. Hein, voilà. Mais lui,
politique.
Voilà, il est plus porté sur les hommes de toute façon, mais en fait, c'est un amour spirituel, c'est-à-dire que directement, lui, il la croit. Mais tout de suite, il la croit, elle a entendu des voix, les saints se sont adressés à elle, c'est une envoyée de Dieu, il ne se pose pas la question une seule seconde. Il faut retenir pendant...
Sans dire sur le charisme de Jeanne d'Arc, quand même.
Oui, et en plus de ça, lui, il est extrêmement croyant et pratiquant. Et jusqu'à sa mort, il faut vraiment le retenir. Il craint Dieu, il adore Dieu, et il est très respectueux vis-à-vis de l'Église. Voilà. Donc en fait, il va être la personne en charge d'aider Jeanne d'Arc à reprendre Orléans, à accompagner le roi à Paris, etc. À Reims, pardon. Et il va être nommé maréchal, qui est quand même la plus haute dignité militaire. Donc c'est vraiment pas n'importe qui. Il obtient son bateau de maréchal. Et à cette époque-là, il est tout jeune, il a 24-25 ans. Hein, c'est vraiment c'est un jeune homme, voilà. Et il est au top de sa gloire. Et un jour, il apprend que Jeanne a été capturée par
les Anglais,
pas le sang,
voilà, par les Bourguignons revendus aux Anglais, et qu'elle est prisonnière à Rouen. Donc il va faire une tentative de sauvetage de Jeanne d'Arc, hein, il va monter une armée pour aller la récupérer, c'est un fiasco total, vous connaissez la fin. Et elle est brûlée donc en 1431, un truc comme ça. Il retourne dans ses terres, et à partir de ce moment-là, il devient un petit peu fou, notre ami Gilles de Rais. Il change totalement.
Donc, il a perdu la foi.
Non, il n'a pas perdu la foi, pas du tout. Il reste vraiment pratiquant et croyant jusqu'à la fin de sa vie. Mais en fait, il a une déprime, tout simplement, et il va noyer sa déprime dans les dépenses et dans le faste. Donc il va se faire une suite, mais plus que royale. En sachant que son économie commençait à chavirer un petit peu, étant donné que le roi de France, une fois sacré, ne lui a jamais compensé tout ce que lui, il avait investi pour aider le roi à se faire une armée, etc. Donc c'est bien fait entuber un petit peu par la couronne, quand même. Et donc, alors il dépense tout ce qui lui reste. Donc il a des serviteurs de dingue, il se paye des animaux exotiques, il fait des banquets à n'en plus finir. Et il va même, il aimait bien les arts, et donc il va même faire des... Il va financer des mystères. Donc les mystères, c'est les pièces de théâtre médiévales qu'on appelle des mystères. Et c'est uniquement à thème religieux. Et donc, il va en faire un, notamment sur Jeanne d'Arc. Ils vont faire une tournée, en fait. Hein. Le mec, il devient producteur. Il va faire une tournée du truc. Enfin,
comme
c'est
tous
incroyable.
Les gens qui se font chier et qui ont de l'argent, finalement.
Mais voilà. Et il va faire jouer la dernière représentation à Orléans. Enfin, un truc de dingue. Il y avait des centaines, je crois que c'est 400 figurants, 400, 500 figurants qui changeaient de costume tout le temps. Enfin, mais vraiment, faut vous imaginer le truc.
Un village tournant, quoi. Enfin.
Ah, mais c'était absolument hallucinant.
Le Puy du Fou,
c'était le Puy du Fou de Gilles de Rais, exactement. Et donc, il dépense. Et sa famille commence à flipper. Légèrement, quoi.
Dis donc, Gilles.
Son épouse, elle lui dit, bah, tout à fait, écoute, Gilou, là, tu vas un petit peu trop loin.
Tu dilapides l'héritage, Gilou.
Et donc, en fait, sa famille va obtenir à ce qu'il soit mis, entre guillemets, sous tutelle financière. C'est-à-dire qu'il va plus gérer la totalité de son argent. Et en fait, on va mettre une partie de ses terres en vente.
Ah oui, carrément.
Exactement. Donc, le duc de Bretagne, lui, il est tout à fait content. Il va racheter des terres, étant donné que ça se situe aux portes de son duché à lui. Donc, ça lui... grossit ses
pratique.
Terres. Sauf qu'en fait, ces terres, elles sont revendues, mais avec une clause, c'est-à-dire que si Gilles de Rais se refait une petite fortune, il pourra les racheter
au même prix,
exactement. Oh. Et donc ça va ennuyer un petit peu le duc de Bretagne. Alors, il n'y a pas que lui qui va être client des terres de Gilles de Rais, il y a d'autres personnes, et ça va les ennuyer. Et donc, le procès de Gilles de Rais qui va s'ouvrir un petit peu plus tard, il faut croire que ça arrangeait aussi économiquement des gens. Donc, Gilles de Rais, son histoire, elle est politique, mais bon, il n'y a pas de fumée sans feu non plus. Hein. Puis lui, il a admis une grande partie de ses méfaits. Et donc, notre Gilles de Rais, 9 ans après la mort de Jeanne d'Arc, il est arrêté en 1440. Il est arrêté un beau matin, et en fait, il est arrêté suite à des longues années de rumeurs. Donc,
pas que, j'imagine.
Alors, non, à la base, l'arrestation et l'enquête s'est faite uniquement à cause de rumeurs de villageois qui traînaient.
Ok.
Donc, que racontaient ces rumeurs? Eh bien, toutes les populations, en fait, aux alentours du château, et même les domestiques, certains domestiques de Gilles de Rais, racontaient que y avait beaucoup d'enfants disparus dans la région et que Gilles de Rais n'y était absolument pas pour rien. Donc, on arrête Gilles de Rais. Gilles de Rais explique que les enfants qui disparaissent en pleine guerre de 100 ans, ça fait un petit peu. Enfin, il y en a plein. Les Anglais en kidnappent pour demander des rançons aux parents. Il y a des enfants qui s'enfuient. Il y a des familles qui sont massacrées qu'on retrouve jamais. Enfin, c'est le zbeul, cette époque. Donc, ça peut paraître crédible. Mais ce qui devient inquiétant, c'est qu'on constate qu'il y a plus de 200 enfants disparus dans les. Disparu en 9 ans dans les alentours des châteaux que possède Gilles de Rais.
Comme un petit effet Michael Jackson.
Ouais, pourquoi pas.
Oui.
Donc, l'église ouvre un procès et Gilles de Rais est enfermé au château des Ducs de Nantes, des Ducs de Bretagne, pardon, à Nantes. Donc, notre. Oh là là, c'est pas la bonne page, dis donc.
Est-ce que t'as fait un dessin? Je me disais, c'est bien le dessin sur ces notes.
Non, c'était des notes du boulot. Je voyais que j'avais un entretien à faire passer demain. J'étais là, non, c'est pas ça, Gilles de Rais.
Donc, bref. Gilles de Rais avait un truc.
Donc, Gilou,
il s'est fait enfermer.
Voilà, il se fait enfermer, c'est pas cool pour lui. Et donc, on va commencer à énumérer les faits, notamment les domestiques de Gilles de Rais commencent à énumérer les faits. Donc, les faits, c'est que Gilles de Rais aurait fait enlever une grande quantité d'enfants en l'espace de 8-9 ans à peu près, soit par des enfin, soit par des personnes dans la rue, soit lui-même, en fait, serait allé enlever des enfants. Alors, soit enlever des enfants vagabonds, par exemple, des enfants orphelins dont les parents seraient morts.
Ça, c'est facile.
Voilà, des mômes dans la rue. Soit tout simplement en allant voir des familles qui habitent à proximité du château en disant, bah voilà, on cherche un chantre, on cherche un échanson, on cherche du domestique.
Ah, en faisant semblant de les recruter. Et
absolument.
En fait...
Et tu files une petite pièce aux familles. Et si les familles s'inquiètent parce qu'ils n'ont pas de nouvelles, bah oui, oui, mais en fait, bah, il a eu l'occasion de partir bosser
pour lui.
Voilà.
Ça se développe. Oh là là.
Et puis, de toute façon, je veux dire, les familles s'inquiètent pas tant que ça. Un jeune homme qui trouve une poste, enfin un poste dans une bonne seigneurie, il peut être amené à suivre le seigneur. Mmh. Et donc du coup, comme les seigneurs sont quand même très itinérants à cette époque-là, on peut se retrouver sans nouvelles de son enfant pendant 2-3 ans. Donc en fait, la supercherie, elle passait sans aucun problème. Voilà, ça ne choquait pas les gens.
Il a profité du système, quoi.
Mais est-ce
C'était super bien créé. Hein,
mais est-ce qu'on sait ce qu'il en faisait de ses enfants?
Oui, alors est-ce que vous voulez que je rentre dans les détails? C'est ça ma question.
Allez, là. C'est l'épisode ou jamais.
Bah oui. Ouais, c'est l'épisode ou jamais, très bien. Donc alors, ses enfants sont tombés.
Elle est beaucoup trop contente.
Non, c'est horrible. Alors, ce ne sont que des petits garçons. Et ils ont, je crois que les plus jeunes victimes ont 6 ans et les plus grands ont 15, 16 ans, quelque chose comme ça.
Mmh. Je commence déjà à faire
les grenades. Donc ils sont amenés au château. Donc il y a deux châteaux où ça s'est passé selon là où vivait Gilles de Rais. Ils sont amenés au château et sont bien nourris, bien habillés, bien logés pendant quelques jours. On engraisse un petit peu l'animal. Et ensuite, ces enfants, on les habille de robes de bure, en fait, de moine en quelque sorte. On les fait descendre dans les sous-sols de la demeure. Et là, il y a des cercles tressés au sol avec de la poudre blanche. Enfin, on est dans un rituel satanique, en
d'accord.
fait. Et on fait du sacrifice humain.
Et donc, il était croyant jusqu'au bout.
Oui, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, voilà, les témoins racontent. Donc ça, c'est beaucoup les domestiques de Gilles de Rais qui l'ont raconté, parce que les pauvres petits-enfants, ils n'étaient plus là pour le raconter.
Oui, de fait, oui.
Mais donc, ces enfants, on les torturait. Ça pouvait se faire sur des semaines entières. On les regardait agoniser, donc on les tuait de moult façons différentes. Hein, vraiment, tout ça dépendait de l'enfant. Gilles de Rais apparemment avait une passion, c'était de s'asseoir sur l'enfant quand il était en train de mourir et de le fixer. Si,
non,
si, c'est horrible.
Camille,
pendant
non.
qu'il mourait. Mais si, absolument.
Oh, non.
Donc on les tue.
Bad. Je ne suis pas d'accord pour faire un disclaimer ou pas.
Je suis pas d'accord.
Ensuite, Gilles de Rais les violait.
Oh
ensuite,
non.
Et si,
une fois qu'ils étaient morts, on est
une
d'accord.
Une fois qu'ils étaient morts.
Bien sûr, non, mais c'est logique, ça fait sens.
Absolument. Et ensuite, alors, il y a eu quelques témoignages d'anthropophagie.
Bah, ouais. Ça me choque moins par
ouais,
rapport
à. Oui, bah, du coup, voilà. Une fois que tu y es.
Dans tous les cas, le sang était récupéré et on servait du sang pour faire de l'encre pour des manuscrits, des.
Donc on a retrouvé des manuscrits.
Des trucs sataniques.
Potentiellement écrits.
Non, on n'a plus rien aujourd'hui, mais, okay. Mais en tout cas, voilà, il aurait fait des écrits sataniques avec le sang de ces jeunes victimes. Et ensuite, eh bien, on les coupait, quoi, en petits morceaux. On faisait des petits pâtés en croûte. Non, et on dispersait les corps, on les donnait, je sais pas, à manger au premier loup qui passait dans la région. Enfin, et on supprimait, entre guillemets, les preuves. C'est-à-dire qu'il y avait des domestiques qui passaient 3 jours à nettoyer tout le sang. Et puis hop, là, une semaine plus tard, nouvelle victime, boum, on y retournait.
Oh non, pas encore.
Mais de toute façon, c'était une machine, hein, pour qu'il en tue autant.
De sang, oui, quoi, c'est... putain!
Alors, pourquoi est-ce qu'il s'est mis à faire ça, en fait, Gilles de Rais? Comment est-ce qu'on a pu.
Il avait un pet au casque.
Mais attendez, comment est-ce qu'on a pu passer du camarade de Jeanne d'Arc irréprochable, mais vraiment, c'est-à-dire
peut-être
le mec super croyant.
Peut-être qu'il n'était pas irréprochable, et c'est à partir du moment où il avait plus de thunes, qu'il avait plus de réputation.
Qui est voilà. Dérangé.
Les thunes, en fait, ça a joué.
Moi,
hein.
Je partirais plutôt sur un syndrome post-traumatique, puisqu'elle était en bataille avec Jeanne d'Arc ou pas?
Ah bah oui,
qu'il
oui.
avait mené des combats,
ah
etc.
Oui, oui. Ah oui, mais
syndrome post-traumatique, il avait soif de sang. Enfin...
Mais lui, de toute façon, il vient d'un univers archi-violent. Les personnes, enfin, je veux dire, qui des chevaliers comme ça qui vivent sous la guerre de 100 ans et qui assistent à des combats aussi violents que ceux qui pouvaient y avoir à la fin de la guerre de 100 ans. C'est quand même terrible.
Oh bah de là à s'asseoir sur des enfants pendant une heure et les violer
non,
après.
Non, mais bien sûr.
C'est vrai que c'est spécifique.
Ouais, en fait. Ouais. Gilles de Rais, alors quand on lui expose tous ces faits au tribunal, lui il dit ah non, pas du tout. Non, c'est pas du tout. Et il va même avoir le culot de dire bah non, écoutez, c'est très gentil, c'est pas moi. Par contre, du coup, est-ce que vous pouvez me relâcher parce que j'ai des affaires en fait qui m'attendent à ma seigneurie, puis bah, j'aimerais bien y retourner, hein, voilà. Et donc on va pas le relâcher, on va l'excommunier dans un premier temps
et, là,
et continuer le procès. Et alors là, lui, il devient fou. Il devient fou parce que lui, il était allé se confesser. C'est ça qui est terrible. Il s'est quand même confessé pendant ses 9 années. Donc il a tout raconté. Dès qu'il butait un enfant, le lendemain, il racontait à un prêtre. Hein.
Qui lui n'a rien raconté.
Ben non, secret de la confession. Voilà. Et mais lui, en fait, Gilles de Rais, je sais pas comment vous le dire, c'est quand même une époque un petit peu particulière vis-à-vis de la foi, dans le sens où bah, il s'est confessé. Mais en fait, il y peut rien. Il a, c'est une forme de schizophrénie, en fait. Lui, la façon dont il l'explique, c'est que bah, il tue, mais il s'en veut tellement. Mais bon, comme il s'est confessé, bah, Dieu lui pardonne, donc ça passe. Et donc là, on l'excommunie, on continue le procès, et lui, il va très très mal vivre le fait bah, d'être damné, d'aller en enfer, tout simplement.
Ben tiens.
Et donc, alors que le reste, ça ne le
joue pas. Dans l'espoir qu'on lui enlève cette radiation de l'Église, eh bien, il va avouer, tout simplement. Et il va finir par avouer. Et donc, il explique que... donc là, il va rentrer un petit peu plus dans les détails. Cela, je vous les passerai. Mais il explique que le but du jeu, c'était de faire le plus de mal possible par tous les moyens à ses enfants.
Mais pourquoi ?
Il a été, entre guillemets, mal entouré. Alors, ça fait très con de dire ça. Mais en gros, Gilles de Rais...
un mauvais conseiller.
C'est pas de sa faute.
Non, non, mais en fait, Gilles de Rais, quand la ruine arrive et puis qu'il commence à dépenser tous ses sous... il va commencer à fréquenter des alchimistes, étant donné que lui, il a toujours été passionné par les sciences et il a envie de trouver le secret de la pierre philosophale. Un de plus, un d'autre. Voilà. Donc, il s'entoure d'alchimistes, il va faire un genre de petit laboratoire, c'est pas sorcier, dans les sous-sols de son donjon. Et il fait venir des alchimistes, des prêtres défroqués, satanistes, etc. Il fait même venir un alchimiste totalement taré de Florence, qui est condamné avec lui, hein, au procès d'ailleurs. Et ces mecs-là se disent, bon bah voilà, il est jeune, il est super influent, il a besoin de thunes. Nous on est satanistes convaincus, tu vois, on est des oufs, on va grave s'en servir parce qu'il peut nous donner toute la viande fraîche qu'on veut. Et petit à petit, en fait, ils vont le faire sombrer dans la criminalité. Je pense qu'il était faible aussi psychologiquement.
Ouais, c'était le théâtre d'expérimentation un peu occulte et...
Oui. Ah oui, clairement.
Ah putain, c'est sûr.
Il va passer de la magie, mais en gros, enfin voilà, essayer de frotter des cailloux pour faire de l'or. Oui, c'est une forme de folie, mais voilà. Et oui, il passe direct à la pédophilie et ensuite à des meurtres.
À quel moment tu peux faire de l'or en violant des dépouilles mortes d'enfants? Je ne comprends pas la logique.
Non, ne tente rien, Ilias.
en faisant des sacrifices, en fait, lui, c'était plutôt dans
ce sens-là. Le sacrifice, passons. Tu offres une âme. Pourquoi tu veux violer cette âme?
Il y a un truc qui m'étonne. Peut-être que je ferai un sujet un jour sur l'église de Satan, du coup. Mais il me semblait que c'était plutôt la promotion du libre-arbitre et machin, et que tout ce qui était sacrifice humain ne faisait pas vraiment partie de l'église satanique, entre guillemets.
Alors après, ça dépend peut-être aussi des lieux, des périodes, des endroits.
Oui, possiblement.
Hein.
Bah, je ferai des recherches là-dessus. Oui.
Avec grand plaisir.
Pareil, sur l'alchimie, je suis très très chaud pour un sujet sur l'alchimie.
Ah, mais sur l'alchimie, oui, c'est carrément intéressant. Ça, je suis bien d'accord. Et donc.
Maintenant qu'il a avoué.
Il avoue. On lui demande combien, alors là il répond hop.
Plein.
Ah, je sais compter que jusqu'à 200 moi.
Non non, mais il avoue 160 je crois environ, c'est-à-dire qu'il a pas compté, mais sauf que voilà, quand on compte le nombre de disparus, il y a plus de 200, donc c'est fort probable que ce soit plus de 200, mais je vous avoue qu'il a pas tenu un livret de compte.
C'est déjà énorme.
Une fois que t'as passé les 100, je pense que bon.
Oui, bah, les deux quoi. Enfin...
Mais il y a pas en termes de meurtre d'enfants. Je ne lui connais pas de rival et d'équivalence. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Et donc, étonnamment, il est condamné à mort par l'Église.
Oui, alors c'est bien. Ils ont la rancune un peu tenace. Hein.
Mais alors en fait, lui, c'est ça qui est vraiment terrible, c'est que il va vivre sa condamnation à mort à la cool, parce que il se dit, et il le dit à son procès, il se dit que bah s'il est condamné à mort et puis qu'il va au bûcher, bah là où c'est bon, ce sera pardonné quoi, puis qu'il ira au paradis. Et lui, c'est le principal en fait. Il veut vraiment retrouver Jeanne au paradis, au calme quoi. Voilà. Bravo. Alors, il est condamné à être brûlé. Mais comme c'est un très très grand seigneur, je vous rappelle qu'on est quand même sur le numéro 2 ou numéro 3 du royaume pour l'époque, hein, eh bien on a la bonté de le pendre avant, et ensuite on le brûle. Et en plus de ça, il a un deuxième petit cadeau, c'est que on ne le brûle pas complètement, c'est-à-dire on le brûle un petit peu.
Et on ensuite, fait un tataki, on retire
et
l'extérieur.
Ensuite, on l'a enterré dans une abbaye.
Tu veux dire qu'il était mi-cuit, quoi.
Exactement, ouais, c'était un mi-cuit. Il était à point. Et sa tombe a été profanée et son corps a été jeté dans la Loire à la Révolution française.
Putain.
Et
bien fait. Ça se comprend.
Ah bah oui, ça se comprend tout à fait. Et Ses complices aussi ont été tués, il n'était pas seul dans le coin, tué ou enfermé. Je crois qu'il a été exécuté avec deux complices et il y en a d'autres qui ont été enfermés après lui. Sa famille ne s'est pas vue confisquer ses biens, ce qui est quelque chose de très rare à l'époque. En général, on vous confisque les biens, mais et Gilles de Rais a eu descendance sans aucun problème, et donc il y a probablement encore aujourd'hui des descendants de Gilles de Rais, parce que j'ai fouiné un petit peu sur internet.
Qui travaille dans le cinéma.
Non, mais j'ai fouiné un petit peu sur internet, et puis bah la descendance, elle va loin dans le temps. Enfin. Vraiment, c'est.
T'as cherché sur LinkedIn aussi.
Non, mais à l'époque de Louis XIV, il y avait encore des descendants de Gilles de Rais, alors que c'est beaucoup plus tard. Donc, il a peut-être encore des petits enfants.
Community manager de Charles.
Et donc, il y a les deux châteaux, je crois, de Gilles de Rais qui se visitent. En tout cas, enfin, il avait plus que deux châteaux, mais les deux châteaux où il a commis ses méfaits. Alors, c'est des châteaux. Qui sont à moitié en abandon, ce qui ajoute apparemment, enfin qui sont pas en abandon, ils sont en ruine.
Ouais, ils sont beaux.
Et apparemment, ça rajoute vraiment une atmosphère super angoissante au personnage. Mmh. Donc voilà. Alors il y a beaucoup de gens qui ont la théorie vraiment du complot, c'est-à-dire bah non, Gilles de Rais, pauvre chaton, il avait rien fait. Je pense effectivement que vous savez, c'était un peu comme DSK, c'est-à-dire beaucoup savaient, on l'a ressorti au bon moment. Et je pense que pour Gilles de Rais, c'est exactement ce qui s'est passé. Quoi.
Oui, mais c'est pas un pauvre chaton pour autant.
Non. Non, pour moi, c'est pas du tout un pauvre chaton. Moi, je pense qu'en fait, beaucoup savaient. Mais que les yeux sont restés fermés pendant longtemps et qu'on a attendu de le sortir au moment opportun pour que ça passe. Donc voilà, c'était la belle histoire de Gilles de Rais qui était, je vous le rappelle, le meilleur ami que Jeanne d'Arc ait eu dans sa vie.
Un mec sympa.
Alors maintenant, on peut remballer tous les Freddy Krueger, les machins et tout ça, c'est mille fois plus dégueulasse.
Quoique.
Mais en fait, c'est tellement dégueulasse qu'on a. T'as du mal à réaliser, moi, je trouve. D'avoir buté quasiment 200 enfants dans ces conditions.
Non, mais surtout, buter, c'est pas genre avec un coup de hache ou un machin. Non, il les a torturés, c'est immonde.
Oh, c'est plus, c'est ce qu'ils voulaient, quoi.
Ouais. Ah, mon dieu.
À ton tour.
Je suis pas bien, là.
À mon tour ?
Oui.
Bon, à mon tour, alors.
J'ai hâte. Moins en moins d'inspiration.
Ce que j'ai dit, des jingles de plus en plus travaillés, des strikes YouTube qui vont arriver de plus en plus vite.
Je vous emmerde.
En plus, il dit ton prénom, jingle. Il dit Run Away.
Non, il dit Run Away. Toujours est-il que.
Les
Moi, je vais vous parler de Ed Gein. Pas exactement des boogeyman, mais plutôt précisément de Ed Gein. Et donc, avant de vous dire pourquoi il est inspiré des tueurs en série, je vais vous raconter une petite histoire.
Allez, vas-y.
C'est parti.
On est en novembre 1957, à Plainsfield, dans le Wisconsin, pardon, proche de Chicago. Vous visualisez à peu près. Mm. Et on y chasse le cerf, là-bas. Mm. Mais on y chasse le cerf environ une semaine par an. Donc c'est un petit peu une fête locale. C'est un endroit qui est assez pauvre, hein. C'est vraiment une petite ville. Et c'est un peu une fête, tout le monde en profite. Et c'est pas qu'un loisir, on s'en sert aussi pour ramener de la bouffe pour la famille, en fait. Mm. On chasse vraiment pour ramener de la viande, parce que c'est pas le boulot non plus qui...
Pour manger pas.
Qui abonde, voilà. Il y a environ 700 habitants. Donc surtout à cette période-là où tout le monde est à la chasse, c'est une ville qui est très très déserte. Et donc ce jour-là, le fils de la famille Warden, Frank, rentre de la chasse bredouille et retourne au drugstore qui est tenu par sa mère, Bernice Warden. Aucune trace d'elle. La seule trace présente, c'est une trace de sang qui mène jusqu'à l'emplacement où est normalement garée la camionnette de Bernice. Sur le coup, Frank se dit qu'il va contacter la police. Le problème, c'est que le shérif connaît un peu trop bien cette description des faits. C'est la seconde fois en 3 ans que des faits similaires se produisent. La dernière fois, c'était une tenancière de café du nom de Mary Hogan qui accueillait également les chasseurs après leur partie de chasse. Une nana un peu bourrue, assez forte, quoi. Et qui parlait comme un gars, finalement.
J'ai l'impression d'être dans un Cluedo, là. C'est trop cool.
Et cette Mary Hogan, elle est disparue dans des circonstances similaires, donc on avait retrouvé une trace de sang et plus aucune trace après le parking. Du coup, le shérif et ses adjoints cherchent des pistes et Frank mentionne qu'il a croisé un certain Edward Gein au magasin la veille. Edward qu'il connaissait, tout le village le connaissait en fait, c'était pas vraiment l'idiot du village, on peut pas dire ça, mais il était connu comme le bizarre de service, on va dire. Et Franck dit au shérif qu'il l'avait vu tourner autour de sa mère ces derniers temps. Donc, les policiers se disent qu'ils vont aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez Edward Gein. On est en novembre, il fait déjà nuit noire, et pour rien arranger, il neige en plus. Et le vieux corps de ferme de la famille Gein semble désert, mais il tarde pas à trouver Edward qui est garé devant chez ses voisins. Le shérif demande à Ed de le suivre au poste pour lui poser quelques questions, et il accepte absolument sans broncher. Par acquis de conscience, il demande tout de même à une patrouille d'aller jeter un œil chez Ed. La patrouille se rend donc chez Ed. Arrivé à la ferme, qui est une bâtisse un petit peu lugubre, qui n'a pas d'eau ni électricité, les adjoints décident, avant d'entrer dans la maison, d'aller jeter un coup d'œil dans la cabane à outils, qui n'est pas plus d'ailleurs reliée à l'électricité que le reste. La porte est fermée, ils décident de la dégommer. Un coup d'épaule suffit à ouvrir la porte, et alors que les officiers balayent la cabane avec le faisceau de leur lampe, ils se figent. L'un d'eux sort immédiatement de la cabane et il vomit son repas dans la neige. L'autre reste debout pétrifié. Ils ont retrouvé Bernice Worden.
En bon état apparemment.
Attaché à un crochet, la tête en bas. Enfin la nuque en bas, parce que la tête est aux abonnés absents. Et éventré comme un cerf.
Oh non, mais non.
Bon, un arbre de Noël plutôt moyen.
Je ferai plus jamais d'épisode d'Halloween avec vous. Plus jamais.
Mais dans la maison, ils sont pas au bout de leur surprise.
La tête.
Tu es dans le salon.
Je me sens pas bien.
Ils trouvent une collection plutôt macabre.
Évite de faire ça quand je bois, s'il te plaît.
Il y a des bols sur la table. Des bols qui sont faits en sommet de crâne humain. Il y a aussi des abat-jours de lampes en peau humaine. Des guirlandes de tétons. Je répète, des guirlandes de tétons.
Okay. Attends, est-ce que les guirlandes pointent quand il fait froid?
Ah, je ne sais pas.
C'est une très bonne question.
On y trouve aussi un costume en peau humaine, donc un legging, une veste cousue de peau humaine, c'est-à-dire en fait la peau d'une femme qu'on peut vêtir comme un vêtement.
Ça doit tenir chaud au final. Hein.
Ça doit être pas mal. Mais l'odeur, pas fou.
Je me sens pas bien. Du coup, tu l'avais avec quoi? Avec du savon, de la lessive?
Du carbonate. De la javel, peut-être. On trouve aussi les entrailles et la tête de Bernice Worden dans des sacs.
Oh mon dieu.
Bah, ils étaient rangés au moins. On trouve aussi des masques accrochés au mur qui sont faits en, je vous laisse deviner,
en visage humain.
Exactement.
En latex.
Accrochés sur des petites boules de papier journal, en fait, on les a posées comme des masques. Finalement, pour la déco, il y en a plusieurs contre le mur.
J'avais archi peur d'être trop trash et.
On fera plus jamais d'épisode d'Halloween.
On disait que ton salon était un peu vide, Elias.
C'est ça. mais surtout, enfin. C'est joli masque en peau humaine, mais il y a un de ces masques qui est plutôt familier, c'est la tenancière Marie Hogan.
Ah bah la voilà.
Qui avait disparu 3 ans plus tôt, elle était là.
Du coup tout s'est bien fini.
Tout s'est bien fini. Et
ils étaient bien contents.
Pendant que nos amis visitent le poste, visite la maison. Ed Gein, lui, il est au poste, hein, au calme, avec la police. Et Ed Gein, quand on lui parle de ça, il dit bon,
c'est pas moi.
J'ai merdé.
Il reconnaît 2 meurtres.
J'ai fait de l'alchimie.
Il reconnaît le meurtre de Marie Hogan et de Bernice Worden. Les autres corps utilisés pour ces petits DIY du dimanche, d'après lui, ce seraient des cadavres qu'il aurait dérobés au cimetière du coin.
Oui,
ça semble concorder avec ce qu'on a trouvé, l'état de putréfaction, etc.
C'est du loisir créatif au final.
Voilà, petit DIY comme je disais. Enfin, il avait un compte Pinterest d'ailleurs, vous pouvez encore le trouver, c'est faux. Mais potentiellement, ça aurait été des cadavres, donc il n'a reconnu que 2 meurtres. Mais... Il est possible qu'il soit allé un petit peu plus loin. Faut savoir aussi que Ed Gein vivait seul au moment des faits, mais quand il a emménagé dans cette maison, il était enfant et il n'était pas tout seul. Il était avec son frère, son grand frère et sa mère. Et son père, mais qui est décédé assez rapidement.
Décédé d'un coup de hache dans le torse.
Non, il est mort, je crois, d'une crise cardiaque. Et la maman de Edward Gein, c'était une fanatique. À la base, ils habitaient à la ville. Elle a décidé pour le reste de la famille qu'ils aillent vivre à la campagne. Et elle leur apprenait à ses fils que les femmes, c'était la pire chose, tout simplement. Les femmes, c'est le diable. On s'approche pas des femmes, c'est l'enfer.
Elle avait pas tout à fait tort.
Oh non !
C'est Camille qui a dit ça, c'est Camille.
Camille Bûcher. Je vous encourage à flageller Camille.
Edward, il vouait un culte à sa maman.
Ron imperturbable.
J'essaie tant bien que mal. Il vouait un culte malsain à sa mère, et d'ailleurs même son grand frère qui s'appelait Henry critiquait pas mal la relation qu'il avait avec sa mère. Alors on n'en sait pas plus, on sait pas s'il y avait une relation d'inceste ou un truc encore plus chelou, mais ils avaient une relation un petit peu inceste.
Mais c'est Halloween ou c'est pas Halloween, merde?
Bah oui, décide-toi à un moment donné.
Oui, mais moi,
c'était ton idée en plus.
Non, si. La prochaine fois, on fera un spécial.
Et c'est
pack.
Là que Winnie l'ourson ramassa le pot de miel.
Ah, là, d'accord.
Donc en 1944, un incendie se déclare près de la ferme et Henry et Ed, donc les deux frères, décident d'aller l'éteindre, tant bien que mal. Quelques heures plus tard, Ed appelle la police pour les prévenir qu'il ne parvient pas à retrouver son frère. La police arrive et lorsqu'ils arrivent, ils les amènent directement à son frère.
Chelou.
Étrange.
C'est spécial.
Pour un mec qui ne sait pas où se trouve le corps. Mais néanmoins, il n'est pas inculpé. Enfin voilà, son frère est retrouvé mort. On n'avait pas les mêmes technologies que maintenant pour savoir qu'en fait, il avait tabassé, on le soupçonne.
Technologie.
Et qu'il l'avait laissé crever dans un incendie. Après ça, donc Ed se retrouve seul avec sa mère, ce qui était ce qu'il voulait. Mais la santé de sa mère, après la mort de son frère, se dégrade. Elle a plus aussi des attaques, elle se retrouve paralysée. Et il reste à son chevet une année. Toute une année, jusqu'à ce qu'elle rende l'âme, alors qu'elle était paralysée dans son lit. Et du coup, Ed se retrouve tout seul dans cette maison, abandonnée à un monde qu'il ne connaît pas. En fait, on ne lui a jamais appris à s'adapter au monde, mis à part par les dogmes religieux de sa mère qui lui disait que les femmes, c'est le diable, et son père qui était un alcoolique. Et voilà.
Ouais, donc il n'était pas dans la, on va dire, le milieu.
Disons qu'on n'est pas sur une top surprise,
ouais, okay.
Finalement. L'éducation, c'est important.
Il n'avait pas un terreau culturel foufoufou pour se développer.
Exactement. Et donc l'histoire d'Ed Gein, une fois qu'il a reconnu ces deux meurtres et toutes les atrocités, quand même, ce qu'on a retrouvé dans sa maison, c'est un peu taquin. Forcément, ça a attiré la presse et ça a enflammé aussi l'imagination de pas mal d'auteurs. Auteurs qui ont plus tard été adaptés en film. Et il y en a trois parmi eux qui sont très célèbres, des films qui ont été inspirés de l'histoire de Ed Gein. Est-ce que vous auriez une idée?
Human Centipede?
Non.
Non, c'est pas le film, purée, j'ai plus le nom, mais où, avec le patchwork de peau humaine, la bête qui sort et enfin la bête, le
la
tueur.
Bête
The
Thing.
Non, le tueur qui revient tous les 4 ou 5 ans et puis qui il bute des gens et il se fait.
Vendredi 13.
Halloween. Non, il se fait des petits patchwork en peau humaine.
Ouais, tu te rapproches, mais il utilise un outil particulier, ce tueur.
Un poinçon.
Un outil, vraiment un outil. Voilà, très
ah,
bien.
Ah, mais c'est.
Je pensais pas à ça.
Eh ben, c'était Billy. Ça. En effet, Massacre à la tronçonneuse a été inspiré par Ed Gein. D'ailleurs, Massacre à la tronçonneuse, il y a marqué inspiré de faits réels quand vous regardez le film, même le vieux film de Toby Hooper. Et en effet, ça a été complètement inspiré puisque le tueur récupère le visage de ses victimes et s'en fait un masque. C'est pour ça qu'on l'appelle Leatherface, Massacre à la tronçonneuse, gueule de cuir, parce qu'en fait, il se fait des masques en peau humaine. Il y a aussi toute une histoire avec la famille du tueur dans Massacre à la tronçonneuse qui sont potentiellement des cannibales, on n'est pas sûr, mais il a une famille qui est bien chelou aussi. Et Toby Hooper, le réalisateur, a avoué que oui, c'est complètement Ed Gein qui l'a inspiré là-dessus. D'autres idées peut-être?
Jason de Vendredi 13?
Non.
Non,
en tout cas, pas qu'on sache. Il y a peut-être eu des petites inspirations, mais il y en a un autre qui est très très connu. Est-ce que vous avez vu Psychose de Alfred Hitchcock?
Oui.
Nope.
La scène de la douche.
Ouais,
non,
ouais.
Jamais.
Ah oui.
Voilà. Psychose, en fait, c'est adapté d'un livre qui est écrit par Robert
Juste
Bloch.
Pour les auditeurs d'Istrice, Hichem fait semblant. Voilà.
Non. Mais c'est dans la salle de bain avec la hache.
Avec le couteau.
Mais oui, voilà. Le
non, mais oui. C'est
mais
un gros couteau. Une
c'est ce film-là, en effet.
Oui, je vois très bien.
Et donc c'est adapté d'un bouquin.
To Johnny, il dit non.
Non, pas
mais
du
non,
tout.
Rien.
Ça c'est dans Shining.
Ouais,
alors
Shining.
Non, je voyais Shining.
Tu confonds avec Shining.
Mais vous êtes vraiment pire que tout, quoi. J'ai envie de vous dire, lisez un livre, mais c'est pas vraiment le
il faut bien apprendre un jour, voilà.
Oui. Donc c'était adapté d'un livre de Robert Bloch qui avait été écrit quelques années en fait après. Il habitait dans le Wisconsin, donc le bouquin est vraiment basé sur Ed Gein. Et dans Psychose, spoiler alert, mais bon, en même temps, il y a un petit peu prescription, je pense. Le tueur dans Psychose. En fait, ce qui s'appelle Norman Bates se fait passer pour sa mère, c'est-à-dire qu'il se déguise en sa mère.
Non, tu confonds avec Madame Doubtfire.
Non, c'est la Madame Doubtfire est peut-être inspirée de Psychose.
La mère, elle n'est pas encore là. Enfin,
sa
pas
mère
fraîche.
Est morte dans la cave. En effet, il y a le cadavre de sa mère qui l'a conservé dans l'état, comme Ed Gein a gardé la chambre de sa mère en état. Donc, pareil, dans Psychose, le tueur est 100% inspiré de Ed Gein. Et un petit dernier, mais du coup, je ne sais pas si vous avez vu Le Silence des Agneaux.
Oh, j'adore avec les elfes, les
couscous aussi.
Oh là là, cette blague de daron.
Oh, si, je l'ai vu pour le live de 2 heures de perdu.
Ah, très bien.
Très bon film.
Eh ben, dans Le Silence des Agneaux, il y a donc Hannibal Lecter, mais il y a un tueur qui s'appelle Buffalo Bill. Et ce tueur, Buffalo Bill, est aussi inspiré.
Faut mettre la crème.
Il est aussi inspiré
par
Ed Gein.
Oui, parce que il leur dit de mettre de la crème parce qu'après, il va les dépecer.
Exactement. Et donc, voici l'histoire de Ed Gein. Un sacré coquin.
Ah bah, bien pour, belle histoire.
Pour le moins, oui. Et par contre, est-ce que tu peux nous préciser, parce que tout à l'heure tu disais c'est celui qui a inspiré les boogeymen, la définition globale d'un boogeyman.
Alors en fait, j'ai mal utilisé le terme boogeyman, tout simplement.
Pour moi, boogeyman, c'est.
Slenderman.
Non, c'est quelqu'un qui fait peur quand t'es gamin.
Ouais, c'est quelque chose de plutôt surnaturel. C'est moi qui ai utilisé le mauvais terme en me disant boogeyman, parce qu'il a plutôt inspiré des serial killers, en fait, du cinéma.
Non, mais c'est très bien, c'était juste pour apporter. Mais du coup, un boogeyman, ouais, c'est juste quelqu'un.
Un boogeyman, ça va être Candyman, par exemple. C'est un boogeyman, c'est genre une entité qui fait peur.
Genre Freddy.
Freddy est un boogeyman, oui, typiquement.
Okay. Slenderman est un boogeyman.
Potentiellement, oui, tout à fait.
Ouais. Je me force pour cet épisode, je déteste les films d'horreur, les trucs d'horreur et tout. Dada. Vraiment. Ah non, moi, c'est l'enfer.
C'est mon dada.
Je le fais vraiment parce que je vous aime beaucoup, mais sinon, c'est. Ouh là là.
Bon, on va changer un petit peu de sujet alors. On va parler des petits animaux.
Oui.
Ah. Un petit chat noir qui vient de passer. Terrifiant. C'est les chauves-souris.
Je crois qu'il existe une peine au niveau législatif pour quand on coupe une chanson de Michael Jackson.
À la base, je voulais la faire durer pendant les 3 minutes 50 de la chanson.
Non, mais ça aurait été encore plus long, en fait. Ouais,
faisons comme ça.
Autant pour moi.
Mais bon. Donc, on est à Halloween.
Halloween.
Une fête qui est supposée.
Alors, Hicham a le droit de faire l'accent, pas toi, Juan.
Pardon.
Je tiens à le dire.
On peut le faire avec l'accent en mont ou pas?
Ça y est, ça commence.
On n'a
pas fini ma première phrase. C'est une fête qui fait peur. On est tous d'accord. Et qui dit Halloween dit maison hantée.
Oui.
Oui.
Non, pas la lettre T, Ilias. Et c'est pas une maison hantée s'il n'y a pas un chat noir au rebord d'une fenêtre, un hibou qui ulule, quelque part pas très loin, une énorme toile d'araignée qui fait chier tout le monde, ou carrément une chauve-souris qui pend sur le plafond.
On dirait que t'as eu des mauvaises expériences Airbnb, mais...
Non, mais c'est... Non, mais en général, quand on pense à maison hantée, il y a toujours ces petits trucs qui vont avec.
Avec un éclair.
Aussi, mais c'est pas un animal.
Et un grand arbre.
C'est vrai.
Une sorcière sur un balai.
Et c'est pas un hasard qu'on ait les animaux que je viens de citer et pas un lama ou un lémurien. Parce que
c'est la société occidentale.
Le lama zombie.
Aussi, mais c'est surtout, c'est des animaux.
Un lamantin, parce que c'est vachement plus dur à trouver.
Laisse-le parler, putain de merde.
C'est surtout que c'est des animaux qui caractérisent la vie nocturne.
Ah,
voilà.
Alors que du coup, si les dauphins étaient des animaux nocturnes, il y aurait peut-être des dauphins.
Mais aussi,
des hamsters d'Halloween.
C'est parce que aussi, c'est des prédateurs.
Oui.
Ah. Voilà. Mais il n'y a que des prédateurs.
Enfin, quasiment. Ouais. Le chat noir, c'est pas vraiment un prédateur, mais bon. On aurait pu ajouter le ratel.
La terreur.
Ça aurait été vraiment thème Halloween, mais bon.
Ah là, par contre, c'est vachement plus flippant. Viens, on fait un film là-dessus. Vas-y.
Donc, c'est des animaux qui ont une activité nocturne mystérieuse. Et on ne sait pas trop ce qu'ils font, vu qu'ils sont souvent dans le noir. Et du coup, ils sont devenus, depuis très très longtemps, des sortes de superstitions, entre guillemets. Mmh. Et en plus de tout ça, toutes ces bêtes-là, elles sont noires, gris foncé ou marron.
Elles se fondent dans la nuit.
C'est ça, donc que des couleurs sombres, des couleurs qui se marient bien avec la peur, surtout à l'époque où on éclairait tout avec des bougies ou des lampes à huile.
Mmh.
C'est pas bête, hein.
Il n'y a pas une histoire de familier des sorcières aussi?
Des?
Les sorcières, elles avaient des familiers, tu sais, des animaux met souvent avec les sorcières, et c'était souvent ça, les hiboux, les chauves-souris, les chats, les...
Peut-être.
Pas les mêmes animaux.
Probablement, si tu le dis. Mais...
C'est un très gros peut-être.
Non, mais il y a tellement de choses à dire. Non, mais sérieusement, il y a
tellement d'époques.
Non, il y a tellement de choses à dire, où il y a tellement d'animaux que je vais me consacrer.
On peut pas faire des généralités.
Que je vais surtout me consacrer à juste sur deux animaux.
D'accord.
Ok.
Et je vais commencer.
Et quels sont-ils ?
Je vais commencer par l'animal le plus caractéristique d'Halloween pour moi, en tout cas.
Le dauphin.
Le chat noir.
Le chat noir.
Ah.
Exactement. Le chat noir. On a tous entendu la phrase « Oh putain, il y a un chat noir, ça porte malheur ».
Non.
Oui, parce que j'ai vécu à Toulouse. T'avais un accent toulousain.
Ah bon ?
Ah oui.
Ouais, j'ai pas essayé pourtant. Mais enfin, si, on a tous entendu cette phrase-là.
Oui, en tout cas, on voit de quoi ça parle.
Voilà, mais on n'est pas certain de l'origine de cette phrase-là. Voilà. J'enchaîne.
Le fait que les chats noirs portent malheur, tu veux dire ?
Ah.
Ouais.
Ah putain, j'avais entendu ça. Enfin, je savais la raison.
En fait,
mais
il y a plein d'hypothèses.
Tu en as quelques-unes.
Oui, j'en ai quelques-unes. Il y en a certaines qui m'ont assez plu. Et elles renforcent un peu la position du chat noir de Halloween, enfin, mm-hmm. Voilà, qui soit un animal d'Halloween. Mm-hmm. L'hypothèse la plus probable serait qu'au XIIe siècle, la légende que les sorcières se transformaient en chats noirs pour pouvoir se déplacer facilement sans qu'on les repère et pour enlever les enfants de leur maison.
Parce que rien de plus facile qu'un chat pour...
Le chat, ouais. Il tire comme ça avec ses petites dents.
Non, mais déjà pour se déplacer en ville pour pas qu'on voit la sorcière. Et puis après, rentrer à la maison et voler les enfants.
Mais au retour, il fait comment ? Enfin, elle fait comment ?
Bah, elle les tue et puis elle les mange et puis elle se démerde.
Mais c'est compliqué de les
tuer. C'est une grande dame.
Je pense qu'en fait, elle se déguise en chat pour se déplacer et qu'une fois arrivée, elle le revient à son sorcière.
Exactement.
Oui, non, mais une fois qu'elle est arrivée et qu'elle dit je repars avec l'enfant, elle fait comment ?
Elle n'est pas obligée de repartir avec l'enfant.
Ah, elle tue l'enfant sur place.
Oui.
D'accord. Ok, merci.
Et avec la propagation du mouvement de la sorcellerie en Europe et aux États-Unis, le chat noir est devenu automatiquement rattaché à la sorcière et donc à Halloween.
Ouais.
Donc, ça, c'est une des hypothèses. Des fameuses hypothèses. Il y en a une autre, c'est la version du chat noir nocturne qui date du pharaon. Okay. Des pharaons. Mmh. L'époque des pharaons. C'est à la base un animal divin.
Ouais.
Qui symbolise le pouvoir de Bastet. Oui, Camille.
C'était quand les pharaons ?
C'était il y a très très longtemps. De Bastet.
Moins 5000.
Non, je sais pas, ça a duré archi.
On reprend sur Bastet.
Bah oui, Bastet.
C'était le dieu de quoi ?
Quoi ?
Bastet, c'est un dieu, non ?
Oui, c'est la fille de Ra, le dieu du soleil. Donc Bastet, c'est la déesse de la joie du foyer, de la chaleur du soleil et de la maternité.
Bah sympa alors.
Ouais. Oui. Et elle est souvent représentée par une lune. Mmh. Donc il y a déjà l'aspect nuit qui arrive. Elle a l'aspect d'un chat noir ou juste une femme à la tête d'un chat. Et elle s'est battue contre le serpent des ténèbres Apophis tous les soirs qui essayait de mettre fin au processus de la création. Mais elle l'a battu à chaque fois et le lever du soleil marquait la victoire de Bastet.
Ah, ce qui fait le cycle du jour et de la nuit.
Mmh.
Ouais, c'est beau.
Il y a une autre légende médiévale cette fois qui raconte que le diable... lui-même a essayé de faire comme Dieu et de créer un homme. Sauf qu'il a foiré, il n'avait pas la bonne recette. Il s'est retrouvé avec un chat sans poils. Et c'est Saint-Pierre qui a eu pitié et lui a donné des poils.
Mais je trouvais ça super alambiqué comme
Dieu. Super, ça, cette version.
Ouais, j'adore celle-ci.
Ouais, mais moi, ma préférée, c'est celle qui suit. C'est une légende japonaise. Du chat vampire de Nabeshima. Je sais pas si tu connais, Juan.
Pas du tout.
Toi qui aimes les trucs chelous japonais. Je sais pas, tu regardes bien Godzilla des années 50, quoi.
Ah oui, d'accord. Je croyais que tu parlais du Shibari.
On ne dévoilera pas tout.
Donc, Nabeshima, c'est une puissante famille du XVIe siècle. Et Otoyo, c'est une bombasse japonaise, c'est une dame mais vraiment super belle, la plus belle de tout l'empire. Elle devait se marier avec le prince de Nabeshima de Izen, sauf qu'un soir, elle était tranquillou dans son lit en train de dormir. Elle fait un petit cauchemar chelou. Et au moment où elle se réveille, donc c'est en plein milieu de la nuit, elle voit deux boules phosphorescentes qui l'espionnent. Elle était paralysée par la peur, et là, un énorme chat noir lui saute. Oui. C'est ma façon de faire le chat. Un énorme chat noir lui saute à la gorge et l'étrangle. Bim, elle crève.
Avec son pouce préhenseur, il l'étrangle.
Bref, elle crève. Le chat, il la prend, il la traîne jusqu'au jardin et il l'enterre.
C'était une sorcière.
Attends, le chat, il l'enterre.
Oui, il a réussi à l'enterrer.
T'as ta réponse pour la sorcière, évidemment.
Ouais. Autant pour moi.
Le chat, il revient dans la chambre, il prend l'aspect d'Otoyo. Et le lendemain,
il fait un petit bœuf bourguignon.
Le lendemain, le prince va voir la bombasse, mais il n'en remarque rien parce que le chat ressemble comme deux gouttes d'eau à Otoyo et passe inaperçu. Un jour, le prince tombe malade. Il devient de plus en plus faible.
Il crache une boule de poil.
Tu peux pas autant rire à cette blague, Hicham, tu ne peux pas.
Ouais, je me sens mal du coup.
Il devient de plus en plus faible et puis à chaque nuit c'était pareil, il devient de plus en plus faible quoi. Il fait des cauchemars horribles tous les soirs mais il se souvient jamais de quoi il a rêvé. Les médecins ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il est malade, ils savent pas quoi faire et plus le temps passe, plus le prince est faible. Du coup, ils prennent des hommes armés, ils le protègent dans son lit, enfin il a une garde à son lit quoi pour le protéger. Sauf que à chaque soir tous les gardes dorment en même temps.
Super les mecs.
Ah bah génial les mecs.
Oh,
t'as ta garde.
On va faire une ronde. Je vous propose qu'on dorme tous en même temps.
Ils s'endorment tous au même moment. Et il y a un garde qui décide, pour rester éveillé, de se planter un couteau dans le genou.
Ah.
Et à chaque fois qu'il commence à s'endormir,
il remue le couteau.
Il remue littéralement le couteau dans la plaie.
Et c'est de là que vient l'expression. Non,
je pense pas, mais je vais dire oui. Et un soir, il voit Otoyo qui s'approche du lit, mais il l'empêche de passer. Le lendemain, pareil. Elle essaye de venir, il l'empêche encore de passer. Et on remarque, ça continue, et on remarque que le prince
dormait très bien ces deux soirs.
Voilà. Non, mais il a arrêté Otoyo tous les soirs, elle passait plus. Et là, le prince, mais il pète le feu. Et donc, on a remarqué que le problème, c'était Otoyo. Donc, un jour, le garde qui a protégé le prince avec le couteau dans le genou, il va voir Otoyo, il lui dit, tiens, on a un message du prince pour toi. Il lui donne une lettre, et là, schling, il lui décapite la tête.
Et là, de fait, oui.
Oui, il la décapite. Ouais. J'ai compris. Il la décapite et c'est pas la tête d'Otoyo qu'on trouve, mais
une tête de chat.
Une tête d'un énorme chat qu'il retrouve à la place.
Mais je vous avais dit que les chats c'était le démon, voilà.
Mais cette histoire est incroyable, j'avais jamais entendu.
Mais moi non plus, mais j'ai adoré. Ouais, elle est super cool. Mais bon, en parlant de chats vampires, ne passeront pas à la chauve-souris.
Oui. Hein. J'adore tes transitions.
Alors oui, la chauve-souris se nourrit bien de sang. Je sais que vous vous posez
pas
tous
toutes,
la question. Mais c'est juste une seule espèce qui fait ça. Les autres se nourrissent principalement d'insectes.
Ou de fruits. Il y a des chauves-souris frugivores.
Oui.
Il y avait une virgule dans mon texte. J'allais le dire.
D'insectes.
Mais,
ou de fruits.
Ou de fruits. Et on les, en tout cas, pour les chauves-souris...
Qui
boivent du sang. On les retrouve principalement au Mexique, mais aussi dans d'autres pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Petite info, les chauves-souris vampires, on les appelle les Desmodus rotundus.
Ok.
Voilà.
Bah on retiendra. Hein.
Ouais. Oui, ouais,
tout à fait.
Desmodus rotundus.
C'est ça. Et elles vivent en moyenne jusqu'à 9 ans. Elles font la taille d'une tasse de thé. Elles font 9 cm de haut. Et avec les ailes déployées, elle mesure 18 cm de large.
Bah voilà qui te fait rêver l'animal de compagnie, Elias.
Ah oui, mais je veux pas du tout, vraiment pas du tout être taquin sur les mesures à chaque fois.
Mais si.
Elle fait la taille d'une tasse de thé.
Bah oui.
Mais genre un mug, une petite tasse.
Mais non, tasse de thé.
Oui, une tasse de thé Starbucks.
Bah une tasse de thé de Starbucks.
Très bien.
On en a une à la maison.
Quoi?
Pas du tout.
Mais c'est si. Un mug ça.
Mais une mais tasse oui. De thé, les gars, vous savez pas ce que c'est qu'une tasse de thé?
Si, les tasses de thé
de
façon reine d'Angleterre en porcelaine, quoi.
Voilà, une tasse de thé.
Oui, très bien.
Oui, donc
ah, mais c'était 5 o'clock et tout, ce genre de tasse de thé.
Ah, pardon, excusez-moi, je vois que ça fait 7 minutes qu'on parle d'une tasse de thé.
Ah ouais, c'était une interrogation.
Voilà. Et elles sont donc assez petites, quoi. C'est ça la conclusion. Elles vivent en colonie de 100, mais peuvent aller jusqu'à un groupe de 1000 chauves-souris.
Oh, l'angoisse.
Ouais, c'est ouf. Du coup, vu qu'elles boivent du sang, ça fait forcément peur. Et avec Dracula, une figure humaine qui se transforme en animal, en chauve-souris en l'occurrence, ça nous fait rappeler les sorcières avec les chats. Non ?
Oui, il y a un bail.
C'est un peu dans le même délire. Ce qui renforce l'idée d'animal d'Halloween. Mais en vrai, elles ne sont pas comme on le pense. Elles ne boivent pas des litres de sang.
Ah non.
Elle n'a pas été.
Non, mais tranquille.
Vu leur taille, c'est pas parce que... non, je ne vais pas faire ma blague.
Si. C'est pas vas-y, assume.
Non, je vais pas la faire. C'est pas parce qu'elle suce le sang de quelqu'un que.
Quel.
Non, mais non, c'est bon, je la fais pas la blague.
Allez, fais-la.
Non, mais je la fais pas.
On vous laissera proposer les chutes possibles à cette blague.
Ouais, vas-y, c'est une très très bonne idée.
Et on verra si elles peuvent coller à l'imaginaire malade de Michel.
C'est pas parce qu'elle suce un peu de sang d'un homme qui va mourir. En un an, une colonie de 100 chauves-souris peut boire l'équivalent du sang de 25 vaches.
Bah ça va.
Oui, c'est pas énorme.
1000 chauves-souris en un an.
100 chauves-souris en un an, 25 vaches.
Ça va.
Oui.
Ça te bute un troupeau quoi.
ça peut paraître énorme, mais c'est quand même 100 chauves-souris et 365 jours.
Oui, puis le sang, ça se refait.
Aussi.
Ça va.
Aussi, c'est pas bête, j'y ai pas pensé. Mais donc, c'est pas le fait qu'elle suce le sang de quelqu'un qu'elle crève, c'est surtout les maladies qu'elle transporte. En fait. Oui, aussi. Putain,
tout ce qui bouffe le sang en général, quoi.
Ouais, bon, enfin bref, revenons à Halloween.
Revenons à nos papiers, oui, comme tu disais.
Pourquoi les chauves-souris? C'est pas que pour Dracula, puisque Dracula, il a fait sa première apparition en 1897.
Avec le roman de Bram Stoker.
Le fameux.
Exactement.
Épistolaire. J'avais envie de dire épistolaire, je suis désolé.
Je t'en prie, fais-toi plaisir.
Ça vient de la fête celtique, donc le Halloween vient d'une fête celtique qui s'appelle Samhain. Samhain.
Oui.
Je sais pas comment on l'écrit, enfin comment on le prononce.
Il y a deux. S-A-M-H-I-N.
Ouais, mais j'ai aussi écrit entre parenthèses Samhain. Donc je pense que ça se dit dans les deux sens.
En gaélique ou en
béton.
En fait, quand tout le monde se retrouvait, ils allumaient un énorme feu de camp quand la nuit commence à tomber pour éloigner les mauvais esprits nocturnes. Et donc, quand il fait nuit et que t'as de la lumière,
bam, les chauves-souris.
Mais non, c'est les insectes.
Voilà. Bam, les insectes.
Et, donc, et ensuite, bam, les chauves-souris.
Et voilà.
Ah putain.
C'est un festin assuré pour les chauves-souris. Et donc, les Celtes prenaient ça comme les esprits des morts qui revenaient en forme de chauves-souris. Et depuis, ça s'est intégré dans la légende de Halloween.
Bien vu.
Fête d'histoire.
Alors, yes. Petite histoire d'ailleurs de mon enfance.
Oui.
Quand j'étais petit, j'avais
de retour à Toulouse.
un arbre à côté. J'ai pas grandi à Toulouse, mais j'avais un arbre chez moi avec un petit lampadaire à côté et plein d'insectes autour de l'arbre du coup. Et en fait, j'aimais bien parce que le soir, il y avait plein de chauves-souris tout le temps. Et le problème, c'est qu'une chauve-souris, ça ne voit rien.
Ouais.
C'est un peu con.
C'est vrai que c'est un peu con.
Et du coup, ça se mange les baies vitrées en fait. Ça se mange les vitres de fenêtres tout le temps.
Mais du coup, ça va faire flipper.
Non, le problème, c'est surtout que le lendemain matin, quand tu te réveilles, tu ramasses des petites chauves-souris. Et en fait, c'est extrêmement mignon, les petites chauves-souris qu'on a en France. Et du coup, bah voilà, t'es triste parce qu'il y a des chauves-souris qui se sont mangées des vitres.
C'est très très triste.
Ah oui. Les vrais savent. Enfin, partons sur quelque chose de moins mignon.
Non, ça va bien commencer. Vous allez voir, on va parler.
Ça va bien commencer.
Non, mais pour le coup, mon sujet n'est pas du tout crade. Hein. Alors,
oui, on a cru comprendre. Vu la tête que t'as fait à chacun de nos sujets.
Non, mais celui du chat, moi j'ai bien aimé.
Bah, merci.
C'était mignon.
Et là, il arrive et il lui fait des guilis.
Non, mais en vrai, j'ai bien aimé vos sujets aussi. Mais les films dehors, c'est pas du tout mon truc. Mais non,
c'est la réalité. C'est ça que t'as pas compris.
Allez, arrête de chouiner, on y va.
Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque aujourd'hui?
Il fait le clown pendant 5 minutes et il oublie ma femme.
Donc nous allons effectivement parler de clown.
Joli jingle.
Ah, merci beaucoup.
Nos amis des coulrophobes nous remercieront.
Oui, voilà, très bonne remarque, on peut commencer par ça. La phobie des clowns s'appelle la coulrophobie.
Coulrophobie.
Coulrophobie. Ouais.
C'est cool.
C'est cool. Merci le mec qui a nommé le truc.
Et je vous ferai un sujet un de ces jours sur les phobies, même si c'est peut-être un petit peu trop facile. Parce qu'une phobie, c'est pas juste une peur, c'est une peur déraisonnée.
Mais un quiz sur les phobies.
J'y ai pensé, mais ça part vraiment en couille.
Ah, mais moi je ferai ça.
Ok, très bien. Donc, parler des clowns, parce que oui, les clowns, c'est aussi une des. Je sais pas si vous avez une petite phobie des clowns, une petite peur des clowns.
Non, je déteste ça, moi.
Pas du tout, moi. C'est les scolopins, moi.
Vraiment. Ah, moi, les clowns, ça me met mal à l'aise.
Et Hicham?
Marine Le Pen.
Mais tu sais qu'elle a plus peur de toi que toi.
La petite bête mange pas la grosse.
Pardon. On dérive. Oui, non, mais effectivement, alors les clowns, ça peut avoir un truc dérangeant. Et comme souvent dans mes sujets, il y a une question, une idée qui m'intéresse et je vais mettre 15 ans à la développer.
Très bien.
Pour ça, partir de très loin.
Alors, il y a un biais cognitif.
Non, il y a une petite histoire. Ouais. Alors, déjà, il y a trois types de clowns. Est-ce que vous les connaissez? Trois grands types de clowns.
Alors, il y a le clown triste.
Oui.
Ouais, autrement appelé le clown blanc.
Le bozo. Avec les grandes chaussures.
Celui qui est drôle.
Alors, ouais, le bozo, le drôle.
Le con.
Ouais, mais c'est quoi son nom?
Le con.
C'est pas Franzo?
Non, c'est l'Auguste.
Ah oui, le clown Auguste. Habile, exact.
Ouais. Et il y en a un dernier qui est vachement moins connu. C'est le contre-pitre. Voilà.
Pardon. Ah oui, c'est le chevalier du Las Palais.
Pas du tout. Non, pas du tout. Non, le contre-pitre, bon, je vous en parlerai après, mais c'est celui qui est venu après. Enfin, il est venu après l'Auguste et vous verrez pourquoi. Je me suis intéressé un petit peu aux origines des clowns. Et comme sur beaucoup de sujets, on va commencer par le théâtre, puis après partir sur le cirque, parce que c'est bien évidemment au cirque qu'on connaît les clowns. Mais c'est une des théories qui sont assez difficiles. Enfin, il n'y a pas forcément une seule réponse en fait, parce que c'est beaucoup de traditions orales, beaucoup de choses qui sont apparues au même moment à plusieurs endroits différents. Donc, j'ai pas forcément vous donner que des vérités, mais je vous donner des sources différentes. Donc, prenons les origines du clown dans ses origines théâtrales, et on va s'intéresser à la Commedia dell'arte. Est-ce que vous voyez à peu près ce que c'est?
Oui.
Absolument.
Pour synthétiser très vite, de ce que j'en ai compris, et je pense faire un sujet dessus un de ces jours, parce que ça a l'air trop trop bien. En fait, c'était donc c'est un art théâtral qui vient d'Italie, et la Commedia dell'arte correspond plus particulièrement à une phase de professionnalisation du théâtre. Donc c'est des comédiens, comédiennes professionnelles, et ce qui était bah, pas une première, mais c'était un, enfin ça lance un mouvement. En fait, la Commedia dell'arte, ce qui est assez fou, c'est que ça ça a influencé très fortement beaucoup d'autres styles théâtraux. voilà. Non, mais beaucoup d'autres styles en Europe, en France, en Angleterre, enfin plein d'autres trucs. Donc ça a été vraiment
d'autres formes de médias, que ce soit le film.
Alors oui, mais la particularité de la Commedia dell'arte, est-ce que vous la connaissez peut-être?
C'est pas les masques.
Alors il y a les masques, effectivement. Tous les personnages ne sont pas masqués, mais justement,
c'est les mêmes personnages en fait.
Oui, exactement.
Il y a un noyau les central de personnages. Il y a Harlequin. Il y a la bonne, il y a tout un tas de personnages.
Je vais vous en citer, effectivement, c'est ça, c'est une telenovela en fait. la Commedia dell'arte, la particularité, c'est que ça a commencé avec des personnages qui ont été créés, qui ont été incarnés par les comédiens, et les comédiens ont joué les mêmes personnages jusqu'à leur mort, et à leur mort, ces personnages ont été repris par d'autres personnes, et se sont répandus un petit peu partout. Donc c'est effectivement les mêmes personnages qu'on retrouve, et il y a quelques noms que vous allez potentiellement connaître. Si je vous dis Pulcinella,
oui, Polichinelle.
Oui, exactement. Et Scapino.
Scapin.
Voilà. Donc ça, c'est des noms qu'on connaît en France, mais en fait, ça vient de la Commedia dell'arte.
Ouais, ouais.
Et par la suite, justement, je trouve ça assez fou parce que, pareil, je n'en ai pas entendu parler pendant mes études et ça me rend un petit peu foufou parce que ça a l'air passionnant. J'ai pas fait des études littéraires, en fait, au passage, mais j'aurais quand même trouvé ça intéressant.
C'est pour ça, t'as la réponse dans la question.
Non, mais voilà, mais la Commedia dell'arte, ses personnages, si on connaît ses noms, c'est parce que ses personnages ont aussi inspiré par la suite des générations d'auteurs, dont Molière, Shakespeare.
Surtout Molière.
Et les deux. Il y a vraiment des grosses inspirations. Et c'est super, super fou de se dire qu'il y a une base, une racine commune là-dedans. Et ça, c'est fou. J'ai trouvé un petit fait intéressant dans la Commedia dell'arte. Il semblerait qu'à l'époque, donc dans les troupes de Commedia dell'arte, on engageait des comédiennes pour jouer les rôles féminins, ce qui n'était pas toujours le cas dans le reste de l'Europe. Donc c'est une particularité que je trouvais assez drôle. On avait quelques dizaines, centaines d'années par la suite, théâtre, on va dire français, on avait des femmes qui jouaient notamment des rôles d'hommes un peu fluets, genre dans Mariage de Figaro, des trucs comme ça. Chérubin était joué par une femme, je crois.
Ouais, absolument.
Je dérive un petit peu, mais c'est intéressant de voir qu'à l'époque, justement, c'est une vraie professionnalisation et les personnages intéressaient, personnifier vraiment ces personnages, tout simplement. Les personnages qui vont nous intéresser, en revenant au clown, on a un premier, c'est Pedrolino, qui correspond à un nom que vous connaissez peut-être.
Pedro Léon.
Non, c'est Pierrot, tout simplement. Pierrot, parce que on avait parlé du clown blanc. Est-ce que vous avez une autre appellation qu'on utilise parfois pour le clown blanc?
Le clown triste.
Oui, mais par rapport à Pierrot. C'est le Pierrot, tout simplement.
Pierrot, le Pierrot, oui.
Voilà. Notamment le Pierrot lunaire. Il me semble que ça vient de. Alors, je sais pas si. Non, je l'ai pas mis dans mes notes, mais Pierrot lunaire, j'ai pas trouvé toutes les références.
C'est celui-là qui a la petite larme.
Surtout que le Pierrot lunaire, je crois que ça vient d'une adaptation, une suite de poèmes, je crois. Mais sinon, c'est le Pierrot, globalement. Donc, c'est un personnage qui, dans la Commedia dell'arte, est vêtu de blanc. Il ne porte pas de masque, mais il a le visage enfariné. Donc, c'est un des rares à ne pas porter de masque. Et il y a une confusion qui est un petit peu complexe entre Pedrolino et Pulcinella, parce que lors de l'adaptation des personnages en France, certains rôles étaient parfois majeurs, étaient parfois burlesques, parfois observateurs, distincts, etc. Donc il y a eu un mélange de personnages. Donc quand on parle d'un Pierrot en France, c'est pas forcément le Pierrot qui était à la Commedia dell'arte initiale, mais c'est assez difficile de trouver un consensus sur la question. Donc bon, on sait simplement qu'il y a ce type de personnage qui existait à l'époque et que ça a été une des inspirations pour les clowns blancs, les clowns tristes, tout simplement. La particularité de ce cher Pedrolino, c'est que dans beaucoup de ses pièces, il pouvait être un amoureux transi de Colombine, donc un autre personnage, et souvent en compétition avec un autre personnage dans cette quête.
C'est Harlequin, le mec de Colombine.
Exactement, Arlecchino. Et à la fin, je vous donnerai une petite référence par rapport à cette dualité, un film que j'ai extrêmement aimé, qui parle justement de ce petit souci, cette petite quête.
De toute façon, c'est un prisme qu'on retrouve aujourd'hui, même avec le good guy, le douchebag et... Et la nana qui choisit finalement Douchebag.
Ouais, mais là plus précisément, donc on a, alors je répète, Piero Pedrolino, qui est donc une des origines du clown blanc, et qui est le en compétition avec Arlecchino, donc Arlequin. Mm-hmm. Donc on a tous entendu parler d'Arlequin un jour sans forcément savoir d'où il venait.
Ou on l'a colorié, même si on n'a pas entendu parler.
Ou on l'a mangé. Ouais.
Voilà, exactement. Et Arlequin, lui, il est vêtu d'habits très colorés, il a un masque, et c'est un homme du peuple qui a souvent un rôle de valet joyeux, assez expressif. Donc voilà, il a.
Il parle fort et trop.
Voilà. Et il peut être un petit peu malin. Enfin, comme on disait, Comédia d'Alerte, il y a eu beaucoup de pièces différentes. Donc il n'y a pas forcément un Arlequin ni un Pierrot. Mais on a déjà ces deux grosses différences qu'on retrouve déjà dans les personnages qu'on a cités avant. Donc le clown blanc potentiellement triste et l'Auguste qui lui est très expressif, très expansif. Maintenant on va passer à la vie circassienne, donc vie du cirque de ces clowns. On a donc c'est vraisemblablement le clown blanc qui est apparu en premier dans les représentations de cirque, donc il garde une bonne partie de l'apparence héritée de la Commedia dell'arte, donc habit blanc, visage peint en blanc, etc. Il a aussi la particularité d'avoir une expression qui est peinte, enfin très souvent peinte sur son visage. Quand je dis expression peinte, c'est qu'il va avoir potentiellement un ou deux sourcils qui sont dessinés, donc qui vont décrire une expression qui va rester figée sur son visage, forcément. Temps, ouais. Potentiellement des larmes qui coulent, etc. Et donc ça sert à figer le clown blanc dans une espèce de bulle poétique qu'il va créer.
Donc, le plus beau spectacle, de mon avis, des spectacles de clowns, les plus beaux sont ceux qui reprennent le Pierrot, en fait.
Ah, mais c'est très
beau. Extrêmement poétique, avec beaucoup de mise en scène, etc.
Bah, c'est très très beau, et c'est aussi intéressant à l'époque parce que le cirque c'était beaucoup justement des acrobaties, des tours avec des animaux, etc. Donc c'était très rythmé, très spectaculaire. Et donc t'as un clown qui a une expression figée qui vient mettre une espèce de magie, de poésie là-dedans. Ça sert aussi à rythmer le spectacle. Parce qu'en fait, s'il y a que des tours où il y a des voltigeurs et des gens qui font des saltos, au bout du troisième, tu veux plus quoi. Comme dans les films d'action, t'as film d'action, enfin scène genre d'action, explosion, d'amour, voilà, un peu d'histoire d'amour, après re-explosion, salto, re-histoire d'amour. Là, c'est un petit peu ça. Il permet de garder le public en haleine, en fait. Et il a un vrai rôle important, et plus le temps va passer, plus il va prendre un rôle important. Donc, il donne du relief au spectacle d'une certaine façon. La création et l'arrivée de l'Auguste, alors là, ça relève plutôt de la légende partagé. Il y a plusieurs légendes qui se retrouvent un petit peu partout, dans des écrits, etc. Elles ont toutes la même... Enfin, beaucoup ont la même base, en tout cas, mais il n'y a pas... Honnêtement, ça a été très difficile de vérifier les faits, et il y a pas mal de spécialistes qui ont l'air d'assumer totalement le fait qu'on ne pourra pas le vérifier. Donc là, je ne peux pas me prononcer sur la question, mais globalement, la base de cette légende, c'est qu'il y a une idée commune, c'est un accident, un imprévu, qui a fait rire, et qui a été ensuite reproduit.
D'accord.
Donc... parmi ce qu'on peut trouver de plus répété, donc ça serait un employé du cirque qui traverse la piste pour ranger du matériel ou ranger les chevaux ou je sais pas quoi. Il se pète la gueule, il s'étale de tout son long, et là, hilarité du public. Et comme ça a eu l'air de plutôt bien marcher, on a créé l'Auguste pour seconder le clown blanc. Donc on n'a pas supprimé le clown blanc, mais on a rajouté ce personnage qui se pète un peu la gueule, qui fait rire, qui est un peu burlesque. Il y a aussi d'autres histoires où encore une fois, un garçon d'écurie, un truc comme ça, qui fait une connerie avec des chevaux, qui se fait engueuler par le monsieur loyal du cirque, et le monsieur loyal qui s'énerve tout rouge, et tout le monde se moque du mec qui a fait la bêtise. Donc voilà, il y a plein de sources différentes, mais encore une fois, à la base, c'était inattendu, mais les gens étaient hilars, donc on se dit, pourquoi pas, allons-y. Alors concernant le nom Auguste, il y a un truc où, alors j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé, et j'ai souvent lu que ça viendrait d'une expression allemande pour dire idiot, une expression berlinoise plus précisément, mais j'ai trouvé aucune source correcte qui validait cette théorie, parce qu'apparemment cette scène se serait passée à Berlin, mais alors le Auguste, enfin un dérivé de Auguste qui veut dire idiot en berlinois, je n'ai trouvé ça nulle part. Donc si vous avez une rêve,
germanophone qui nous écoute,
pourtant j'ai cherché mais rien trouvé.
J'ai vu une deuxième théorie, le mec s'appelait Auguste
aussi.
Ah oui, ça c'est une très belle théorie.
Possible, mais c'est pas celle que j'avais lue en l'occurrence, mais c'est possible. Donc le duo clown blanc Auguste fait un tabac pendant les dizaines d'années à venir. Sauf que l'Auguste, en fait, ça va être un peu le souffre-douleur du clown blanc. Le clown blanc, c'est celui qui est un petit peu autoritaire, qui a des habits de qualité, des beaux habits. Plus ça va, plus justement il va quitter son côté un petit peu...
Sa mélancolie.
Ben voilà, c'est exactement ça, sa mélancolie, son côté un petit peu effacé. Parce qu'avant, il était plus ou moins seul sur scène, il pouvait créer une petite bulle poétique, un petit peu lente, donc il pouvait être un peu terne. Là, vu qu'il va prendre l'autorité, il va commencer à avoir des habits de lumière de plus en plus. Et à côté de ça, l'Auguste, c'est le gaffeur, l'idiot. Il a des habits trop larges, des chaussures trop grandes, des couleurs criardes,
Il prend toujours une tarte dans la gueule.
Voilà, il fait des conneries, il se pète la gueule, il est bête, enfin...
On retrouve ça dans énormément de duos comiques de cabaret. Enfin, vous avez sûrement un truc en tête dans le genre.
Comment, ouais. comment il s'appelle le gros et le fin là
Le gros et le fin. Laurel et Hardy.
Oui, typiquement, oui. Bah après, Laurel Hardy, ils étaient tous les deux cons.
Oui, ils sont tous les deux cons.
C'est pas bête. Ah, le gros est un peu moins bête.
Ah, je t'avoue que j'ai très peu regardé Laurel Hardy.
Ouais, j'ai plus trop de souvenirs, mais
les jeunes d'aujourd'hui.
Mais une t'étais pas né, mec.
Une des particularités que j'ai trouvées à l'Auguste, et vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est que l'Auguste, en fait, on ne rit pas avec lui, mais on rit de lui.
Oui, voilà. C'est vrai.
C'est une victime, quoi.
Mais ouais, mais c'est ça qui est très important pour la suite du sujet. Je vous ai dit que j'avais une idée principale et je tissais petit à petit pour y arriver. Mais ouais, non, c'est assez fort parce que voilà, on rit pas de lui, on rit pas avec lui, mais on rit de lui. En plus, contrairement au clown blanc, il a un maquillage qui lui va agrandir les contours de sa bouche, de ses yeux pour accentuer ses expressions faciales. Donc il a une palette d'émotions qui est très large, la joie, la tristesse, la surprise. Lui, on va vraiment jouer sur son expansivité, je crois que ça se dit. Mais voilà, il va avoir un rôle assez différent et ça va vite devenir le chouchou en fait. Donc on rit de lui, ok, mais c'est quand même lui qui fait rire et il va devenir la star du duo. Avec le temps, il va commencer aussi à faire des blagues, à devenir plus malin. C'est une des origines aussi de l'Auguste, c'était les personnages de théâtre qui étaient un petit peu bêta, un petit peu genre les hommes du peuple un peu simples qui comprenaient rien. Ça, c'était une des inspirations initiales aussi. Et petit à petit, l'Auguste va se détacher un petit peu de ça et il va gagner en malice, en intelligence. Il va devenir un petit peu facétieux. Et c'est là qu'on va lui rajouter un ou plusieurs acolytes qui sont
les contrepitres.
Oui, il y a des gens qui suivent, Robert.
Oui.
Les contrepitres, exactement. Et ce qui est intéressant, comme je disais tout à l'heure, enfin, ce que je trouve personnellement intéressant, c'est qu'à partir du moment quand l'Auguste est apparu, il était bête. Donc, il pouvait seconder le clown blanc. À partir du moment où l'Auguste est devenu malin, on a dû lui mettre des gens bêtes à côté pour qu'il puisse, enfin, pour garder le ressort comique, intelligence, idiotie. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir, on a l'image de les troupes de clowns de 10 personnes avec 10 clowns qui sortent d'une voiture, etc. Il y a très très souvent un leader dedans et 9 teubés derrière. Bah, c'est l'Auguste et les contrepitres derrière. Maintenant, on va arriver dans ce que j'ai appelé la résurrection maléfique. Donc, on a vu l'origine dans de vieilles traditions théâtrales, comédie d'alerté, tout ça. Personnage de base d'extraction, plutôt simplet, machin. Et en fait, dans le monde du cirque, il dénote un petit peu parmi les artistes. Donc particulièrement l'Auguste, parce que les artistes, si on voit le monde du cirque à l'époque, c'était des...
Ils sont fit,
c'est-à-dire...
Bah, ils ont tous des très beaux costumes, ils sont tous très taillés, et l'Auguste, il arrive avec ses grands pieds et sa démarche de con.
Ouais, il y a de ça. Alors déjà sur les habits, effectivement, lui, il est super... Enfin, il est mal sapé, il est pas mis à son avantage, il est pas... Enfin, il est mal sapé dans le sens qu'en plus, ça ne va pas ensemble, enfin, il sort du cadre. En plus, les acrobates, etc., sont très agiles. Lui, il est maladroit, il se pète la gueule tout le temps, etc. Il est disproportionné. Il sort totalement du cadre. Et dans le cadre du spectacle, le clown, c'est toujours la cible facile. Donc, par ressort comique, il est moqué, il est rabaissé. Ce qui a peut-être participé à la naissance de la terreur des clowns. C'est-à-dire que dans l'enceinte du spectacle, on le considère comme idiot, mal adapté, etc. Et on rit de lui, et non avec lui. Mais de fait est que à partir du moment où on sort de l'enceinte du spectacle,
il peut avoir envie de se venger.
Exactement. Il peut avoir envie de se venger. Donc ça peut être compréhensible qu'on puisse, qu'il puisse créer la crainte en dehors, parce que le public a quelque chose à se reprocher en fait. Il s'est foutu de la gueule de ce personnage. Il l'a considéré.
J'ai jamais vu ça comme ça.
Il l'a considéré comme bête, comme idiot, comme moche, machin. Les gens le pointent du doigt en disant mais qu'est-ce qu'il est bête, Augusto, Augusto. Moi j'imagine que les Berlinois disaient ça, mais en disant que cette explication est juste, mais voilà, donc il se foutait vraiment de sa gueule. Donc on peut comprendre que ces personnes, une fois sorties de là, ils se sont dit écoute, si ce mec il sort du cirque, en plus toi il est très expressif, il devient malin avec le temps, et en fait ça peut puer du cul, quoi, parce qu'on s'est foutu de sa gueule pendant des années, et ça peut puer du cul.
C'est pas facile à dire, clairement puer du cul, voilà. Clairement puer du cul.
Et puis voilà, donc, comme je disais, en plus le clown il a des expressions très vives, très intenses, il est pas du tout dans la demi-mesure. Enfin, le clown blanc n'a jamais fait peur, enfin très peu fait peur. Le clown Auguste, c'est celui qui terrorise le plus. C'est celui qui est dans les extrêmes, qui peut rire aux éclats, qui peut te trucider en riant, etc. Et c'est ça qui peut inquiéter, parce qu'il est totalement à l'opposé de la figure originelle du clown, qui est plutôt calme, posé, etc.
T'es un peu hardcore quand même, personne n'avait utilisé l'expression trucider jusqu'ici. Hein.
Oh là là, vous êtes difficile. Je vais finir avec quelques clowns un petit peu connus, enfin voir s'ils faisaient des clowns connus.
Krusty le clown.
Oui, ah très bien, Krusty le clown. Krusty le clown qui pour le coup ne fait pas peur, mais
un peu quand même.
Bah ouais, et puis il a un rire un peu flippant, ouais. Et puis il fait des trucs un peu.
Ouais, il a toujours une clope à la main.
Ouais, et puis il maltraite ses employés, ouais. Il prend beaucoup de coke, je pense.
Est-ce que tu es en train de dire que ce serait une satire de l'univers du show business?
Ah oui, en plus, j'en ai pas parlé du nez rouge, mais c'était très difficile à expliquer parce que pourtant j'ai creusé encore une fois des sources bien profondes, bien relou, enfin relou. Non, c'était intéressant, mais genre des écrits, des thèses, des machins et tout.
C'est pas une parodie de l'ivresse.
Ouais, j'allais dire.
Oui, voilà. Il y a une des explications, c'est ça. Mais pareil, je peux pas vous dire genre c'est absolument ça, mais c'est une des choses et c'est encore une fois la critique, la satire tout à fait malvenue de l'homme du peuple un peu simplet qui se torchonne, ouais. Etc. Qui va sur du bar.
Qui se torchonne.
Voilà. Est-ce que vous en avez d'autres? Moi j'en ai quelques-uns, mais je vous laisse.
Des clowns de films d'horreur, tu m'as demandé.
Ouais, si tu as, vas-y.
Eh ben on a Gripsou ou Pennywise.
Ouais, Pennywise qui avait
traumatisé la plupart des enfants, oui. Des enfants des années 90. Donc le clown du film Clown. De 2014, j'ai qui n'a pas de nom, ou Kent quelque chose, Kent McCoy.
Il y a la série Le Clown qui avait sur M6, je m'en souviens.
Qui fait pas forcément peur du coup. Il y a Twisty le Clown qu'on retrouve dans deux saisons d'American Horror Story.
Ah oui, il est pas cool lui. Hein.
Il a une sale tête. Hein,
je vous fais confiance parce que je ne regarde pas de films d'horreur.
Il y a le clown de Balade attristée.
Oui, alors, genre, tu me permets, j'en parlerai juste après parce que c'est ma référence ultime au top,
okay.
Film à regarder.
Il y a Coluche aussi.
Coluche, un petit peu.
J'avais un truc un peu plus connu, le Joker de Batman.
Aussi.
Ah bah oui,
aussi.
Et son acolyte. Comment s'appelle son acolyte?
Harley Quinn.
Lana, oui. Ça vous fait penser à quoi?
Ah, Harlequin.
Harlequin.
De toute façon, elle a le même costume.
C'est quand même bien fait.
Écoute, mais moi, je m'en suis rendu compte en écrivant le sujet. Harlequin.
Mais elle a pas le même costume.
Mais bien sûr si. Elle a un costume d'Harlequin.
Ok, calmez-vous, les gars.
Battez-vous, app. Sinon, mais en vrai, je me permets juste de conseiller rapidement le film de 1988, Killer Clowns.
Là, si vous le voyez, il a les jambes croisées, un petit verre de rouge à la main, les bras croisés. Alors, le petit film de 88.
Je vous le conseille, c'est un film d'horreur comique de 1988 avec des extraterrestres qui sont des clowns en fait et qui tuent des gens à coups de tarte à la crème acide.
Killer Clowns from Outer Space. Okay. Oui, effectivement, c'est une très grosse référence et c'est une des. Je vais pas dire de bêtises, mais je me demande c'est pas une des premières origines de des clowns humains.
Clowns méchants, non, je pense pas.
Non, ok. Non, mais c'est possible. Je me trompe peut-être. Et il y en a un. Moi, j'en ai un petit dernier. Après, vous en aurez peut-être d'autres. Mais Ronald McDonald. Tout simplement.
Ah oui,
oui c'est vrai.
Avec toute la merde qu'il nous a fait bouffer.
Et c'est vrai que
voilà, on peut le trouver un petit peu terrible.
Il est vrai.
Et puis donc voilà, ma dernière petite ref, vraiment au top, que je vous conseille, un film qui est monstrueux, c'est La Balada Triste. Un film espagnol, et je ne sais plus de quel auteur malheureusement, je vous donnerai les refs dans tous les cas. Il est, quel réalisateur, auteur, etc., est monstrueux. Totalement perché, mais qui représente très bien ce que je disais au début. Donc c'est le paradoxe du clown amoureux transi à l'extrême. C'est l'histoire de deux clowns dans une compagnie de cirque qui vont se battre pour l'amour d'une fille qui fait du trapèze. Il me semble une acrobate qui fait du trapèze. Et les deux clowns, c'est évidemment un clown blanc qui est la star et un clown auguste qui va dériver. Clairement, méchamment. Et le film est totalement surréaliste. En plus, je crois que c'est en post-Franco ou en cours de...
C'est en cours de Franco, je crois. Ouais, en plus, donc l'atmosphère est archi pesante. Alors,
le film est très pesant. Il a un côté un peu, pas horreur, mais tension, un peu burlesque aussi, parce qu'il y a des scènes qui sont absolument risibles, c'est ridicule.
Oui.
Mais il est très très bien foutu, il est très très beau. Par contre, oui, il est perché. Faut aimer les films perchés, mais il est très très bien. Donc voilà, je vous le conseille. Et puis c'est vraiment la métaphore parfaite des deux clowns amoureux et puis de l'origine de la Commedia dell'arte avec le Pedrolino et le Arlecchino.
Il y a aussi le film avec Omar Sy.
Ah oui,
il est sorti récemment là.
Rico et Chocolat ou Jico et Chocolat.
Je sais pas.
Il y a aussi un film avec Michael Youn qui s'appelait Hero, je crois.
Ah, ça je ne sais pas.
Et qui était pas mal.
Mais le film avec.
Tu vas me dire que Michael Youn a fait de bons films.
Absolument. Méconnu, mais il a fait de bons films.
Pour finir, l'histoire du clown chocolat et de son acolyte, dont je n'ai plus le nom, en fait, c'était pas, enfin, encore une fois, c'était le très bon exemple du clown blanc et de l'Auguste qui est un peu le martyr. Mmh. L'Auguste était joué par Chocolat et c'était une satire justement de d'humour pas post-colonial, mais justement de, d'humour un petit peu colonialiste, etc. Colonial, ouais. Donc vraiment, l'Auguste était encore une fois la victime et ça, bon, je sais pas s'il dénonce un peu ou pas, mais c'était une des bases de leur humour initial, quoi. Voilà. Et ce sera tout pour ma personne.
Très bien.
Voilà qui clôture cet épisode de Halloween.
Ben voilà, et puis pour une fois, on a fait moins de deux heures, mon Dieu. Oh, mais qu'est-ce qui nous arrive ?
C'est vrai ?
Ouais.
Incroyable. La fin de la saison, c'est ça.
On est fatigué.
Ouais, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Effectivement, tiens, on parle de fin de saison. On avait dit qu'on en parlerait plus tard.
Bon, on va en parler. Parlons-en.
Voilà, cette saison 2 se clôturera à la fin de l'année 2018.
Oui, pas tout de suite, il reste quelques épisodes.
Oui, voilà. Vraiment fin de l'année, donc vous inquiétez pas, il y a encore quelques épisodes.
Et puis on reviendra dans tous les cas, hein, c'est juste qu'on va prendre des vacances.
Oui, on va souffler un petit peu, on va prendre quelques semaines de
on
vacances.
On va prendre des vacances de vous.
Comme l'an dernier. Ben, on va même pas forcément prendre des vacances de vous, parce que peut-être qu'on aura l'occasion de se voir, mais on va prendre des vacances d'enregistrement.
Ouais,
on n'a pas fait de vacances cet été.
C'est pas les enregistrements qui sont fatigants, c'est les recherches.
Oui. Non, voilà, mine de rien.
On va partir en Franche-Comté.
Mine de rien, on refera le point en fin d'année, mais on va avoir fait une année complète de quasiment fin janvier à fin décembre, sans aucune pause.
Absolument.
Ça fait pas mal. Mais par contre, comme on disait, on refera le bilan, mais c'était une année assez folle, et on se le dit, je dirais pas tous les jours, mais toutes les semaines, clairement. On est ultra content de ce qui s'est passé avec vous, donc on est
carrément
trop content, trop
vous aime.
Vous êtes vraiment top.
Ouais.
Top.
Ouais, on reçoit encore des messages de gens qui nous voient des photos de cancoyottes de Guadeloupe.
Mais oui.
Vacances.
Mais oui, il faut la boire à la paille.
N'hésitez pas.
Encore des personnes qui nous ont invités chez elles à enregistrer à la campagne. Alors, on a énormément apprécié et promis, on ne vous ghoste pas du tout. On prend tout à fait l'idée, etc. C'est juste que se coordonner à quatre, c'est pas forcément facile.
Ouais.
Mais ça nous fait très envie. Et puis, pour finir sur une dernière reco, vous en aurez peut-être d'autres. Petite reco, on a une nouvelle série qui sort chez Nouvelles Écoutes qui s'appelle Mortel.
Oui, de Taos. Yes.
Oui. Taos Merakchi, alias Jack Parker, qui va lancer une série sur la mort.
Oui, après les numéros 1 sur iTunes, donc je pense que vous ne serez pas passé à côté si vous écoutez les podcasts.
Vous le verrez très vite, mais le premier épisode sort le 9, le prologue est déjà disponible, et vous verrez, ça, c'est pas pour les âmes sensibles, très clairement, mais ça va taper très très fort.
Mmh. Oui, c'est couillu.
Moi, ça m'a rappelé un tout petit peu un de mes auteurs préférés, qui est Chuck Palahniuk, et je vous conseille de lire ce qu'il écrit, parce que c'est très 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 bien, très très beau. Et du coup, dernier recours, si vous voulez lire un truc qui fait pas tellement Halloween mais qui peut s'y prêter, enfin qui est pas basé sur Halloween, qui peut un peu s'y prêter, et je crois que c'était Alestoma, son bouquin Retraite d'artiste.
Absolument, oui.
Qui est génial et qui peut faire un peu creep comme ça, donc voilà.
Ils ont tous un côté un peu creep de toute façon.
C'est vrai. Exactement. Et sinon, voilà, je fais beaucoup de sinon, mais oui, non, on vous avait dit que notre studio allait évoluer, et là, on vous a pas parlé au début, mais voilà, le studio continue d'évoluer, parce qu'on continue de le bricoler avec nos petites mains.
Oui.
On vous enverra des photos, mais voilà.
Je peux enfin reposer mon dos.
Et tout fait main, on fait tous nos meubles à la main, etc. Donc si on savait faire des micros, on les ferait à la main.
Et merci Erol pour les tubes, pour le canapé.
Oui. Ouais, on a des gens qui nous ont donné du matos en plus, donc c'est adorable, donc c'est très très cool.
Tu nous écoutes, je te remercie.
Sur ce, on va vous embrasser bien fort.
On vous fait des bisous.
On vous remercie de nous faire, si vous voulez, voilà, encore une fois, nous faire plaisir, nous envoyer des gentils messages, vraiment ça me fait toujours kiffer.
N'hésitez pas.
On a là nos invités qui sont bookés pour la fin de l'année, dont certaines qui nous ont contactés par Twitter et qui avaient des sujets chouettes, donc n'hésitez pas à le faire, nous c'est toujours un plaisir. Et puis voilà, si vous voulez nous faire plaisir, nous aider à nous faire connaître, un petit like, un petit commentaire, un petit partage, 5 étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir. On est sur iTunes, sur Twitter, sur Facebook,
partout.
Sur YouTube, sur Spotify, on est partout.
On est même sur Instagram pour te dire, alors qu'on a un podcast audio.
Voilà. Donc des bisous, des likes, des étoiles, et on vous aime très très fort.
Allez.
Et prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres.
Bien à vous.
Et à plus tard.
Qu'est-ce que c'est ce machin ?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça ?
Et maintenant ? Qu'est-ce qu'on fout ?
Mais dis-tu nos conneries ?
Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer ?
Ce qu'il dit ?
Vulgaire ? Je trouve ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.